Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Les facettes d'une constitution au cadre de la constitution de la RDC. Qu'est-ce qu'une constitution? Quelle est son origine? Comment est-elle élaborée? Quel est son contenu? Quel est son mode de changement ou de révision? Nous en parlons dans ce magazine de promotion de vos droits et devoirs avec le professeur constitutionnaliste et député national Paul Gaspard Ngondankoy. Excellente écoute à tous. Les facettes d'une constitution, cas de la constitution de la RDC. Pour commencer, professeur, dites-nous, qu'est-ce qu'on entend par la constitution?
Merci, cher Abidjef, de me recevoir une fois de plus. Tout le plaisir est pour moi de pouvoir partager cette fois-ci sur la constitution, comme je l'avais souhaité la dernière fois. Alors, pour faire simple, une constitution, le mot vient du latin, du mot « constitutio », qui signifie « quelque chose qui est debout, quelque chose qui est établi ». Et donc, c'est la contraction du préfixe « cum » et « statuere » qui donne « constituer », c'est-à-dire « instituer », ça veut dire « établir ». Une constitution, c'est donc une norme fondamentale qui institue un État, qui institue un système politique déterminé avec des règles qui gouvernent à la fois le mode d'accès au pouvoir, de gestion du pouvoir, de perte du pouvoir, mais également qui organise les statuts des citoyens, c'est-à-dire les droits, les libertés, les devoirs qui sont reconnus à des citoyens habitants un territoire donné, constituant un État. Donc bref, une constitution, c'est donc la loi suprême et fondamentale que se donne une société qui s'est organisée politiquement en un État et qui définit les statuts des citoyens et les statuts du pouvoir qui s'exerce au sein de l'État. Donc, pour que les citoyens le sachent, c'est la règle des règles, c'est la règle qui détermine ce que nous sommes dans un État et ce à quoi nous devons nous attendre en tant que citoyens.
Est-ce que cette constitution, cette règle doit nécessairement être écrite? Il y a d'autres pays dont la constitution n'est pas entièrement écrite, comme la Grande-Bretagne, Israël. Mais comment ces pays-là fonctionnent?
Ça, c'est une très bonne question. En réalité, les règles constitutionnelles proviennent d'abord des règles coutumières, comme d'ailleurs toute règle de droit, c'est un ensemble d'usages répétés dans les temps et qui sont devenus obligatoires et que l'on porte maintenant dans un écrit aujourd'hui pour que ça devienne une règle de droit écrite. Donc une constitution est avant tout un ensemble de règles coutumières, de gestion du pouvoir, de reconnaissance du statut des citoyens qui ont été par la suite codifiées dans un document solennel qu'on appelle aujourd'hui constitution. Et c'est pour ça que vous l'avez mentionné, certains États qui n'ont pas de constitution écrite, elles sont gouvernées par ces coutumes-là qui sont devenues obligatoires parce que les gens les ont intériorisées et elles s'appliquent à eux comme étant des normes de droit. Mais en réalité, il n'y a pas d'État qui est gouverné uniquement par une constitution coutumière. Même la Grande-Bretagne ou Israël que vous citez, ces deux pays disposent quand même d'un certain nombre de règles écrites, adoptées par leur parlement, mais qui sont des statuts constitutionnels. Et on les considère donc comme un ensemble aussi des règles qui forment leur constitution, même s'ils n'ont pas un document écrit comme nous l'avons, nous, principalement les pays de la famille romano-germanique.
Quelle est l'origine de la constitution, plus particulièrement celle de la RDC?
Très bien, cher ami Jeff. Les constitutions sont nées dans le monde à partir d'un besoin qui a été ressenti par les peuples pour éviter l'arbitraire des dirigeants. Lorsqu'une société est gouvernée, n'est gouvernée que par des règles coutumières, il est difficile non seulement de connaître ces règles, mais aussi de les interpréter de manière objective. Alors, suite à des abus des dirigeants de ces époques-là, qui créaient et qui interprétaient les normes coutumières comme ils le voulaient, il y a eu des révolutions dans certains pays qui ont réclamé que leurs droits soient inscrits dans un texte immuable pour que tout le monde ne puisse pas en prétexter ignorance. Et donc, à partir de ce besoin-là écrit, on a commencé maintenant à assister à la naissance des constitutions écrites. C'est pour ça qu'on parle des mouvements constitutionnalistes, c'est-à-dire est née l'idée que les pouvoirs des dirigeants doivent être limités dans un document écrit, adopté par le peuple lui-même, et qui définit les droits, les devoirs des uns et des autres. Que ce soit les devoirs et les droits des dirigeants, que ce soit ceux des dirigeants. D'où l'idée qu'il y ait un document écrit qui définisse tout cela. D'ailleurs, si l'on cite aujourd'hui la Constitution américaine comme l'une des plus anciennes qui existe, qui n'a jamais été modifiée ou changée, mais la toute première Constitution que l'on connaît dans l'histoire, c'est plutôt la Constitution de la Petite République de Saint-Marin, qui se situe au nord de l'Italie. C'est une constitution qui date de 1100, donc du 16e siècle, de la fin du 16e siècle, et elle existe toujours aujourd'hui. Bref, disons que l'origine de la constitution, c'est une volonté exprimée par un peuple de devoir marquer dans un écrit l'ensemble des droits et des devoirs qui reviennent à chacun, mais également les prérogatives des autorités qui sont chargées de la gestion de l'ensemble des citoyens.
Comment s'élabore la constitution elle-même?
Alors, justement, une constitution s'élabore dans un État de plusieurs manières. Ça dépend si c'est un État démocratique ou c'est un État non démocratique. Dans des États non démocratiques, c'est-à-dire qui sont dirigés par des personnes qui ont accédé au pouvoir par des phénomènes de force, des coups d'État, etc., ou qui existent là parce que c'est par le fait de l'hérédité, dans ces États-là, les constitutions sont en réalité rédigées par les hommes au pouvoir qui l'imposent, qui l'octroient à la population tout entière. La population n'est pas associée à l'élaboration de ces règles-là. Ce sont ceux qui ont l'impérium qui établissent une constitution et qui l'imposent à toute la société. Nous avons connu un exemple de cette constitution ici, c'est le décret-loi du 27 mai 1997 qui a été élaboré par le régime de la FDL qui a renversé le régime du président Mobutu. Et cette constitution, qui est une constitution au sens moderne du terme, n'a pas été élaborée par le peuple ni adoptée par celui-ci. Donc c'est l'exemple type d'une constitution qui peut être octroyée à un peuple par un pouvoir fort qui s'installe. En revanche, dans les sociétés démocratiques, l'idéal démocratique commande qu'une constitution soit élaborée, à tout le moins adoptée par le peuple lui-même. Si elle peut être élaborée, c'est-à-dire écrite par une petite partie de la population désignée à cet effet, ça peut être des experts, ça peut être une assemblée constituante qui a été élue par le peuple lui-même, qui élabore un texte constitutionnel, mais au final, ce texte-là doit être soumis à l'approbation du peuple lui-même qui se prononce par voie de référendum sur l'acceptation ou non d'un texte qui lui a été proposé. Donc, vous voyez que le mécanisme idéal en démocratie pour doter un peuple d'une constitution, c'est celui-là. Il faut que le texte soit élaboré par une assemblée constituante élue par le peuple lui-même et que par la suite, ce texte-là soit soumis à l'approbation du peuple. Vous avez posé la question de savoir quelle est l'origine de notre constitution actuelle. Notre constitution actuelle, on ne peut pas l'évoquer sans évoquer le dialogue intercongolais de Sun City, qui est un accord de paix trouvé entre des Congolais qui se battaient et qui, grâce à l'accompagnement de la communauté internationale, ont accepté de fumer les calumets de paix pour faire naître dans notre pays un ordre politique, un ordre constitutionnel nouveau. Et donc, il y a eu au départ l'accord global inclusif de Sun City qui a accouché d'une constitution de la transition, laquelle constitution, à son article 104, a prévu que pour le nouvel ordre politique et constitutionnel qui devait naître, le Sénat de la transition puisse élaborer un avant-projet de constitution à soumettre à la d'option de l'Assemblée nationale, quitte à ce que l'Assemblée nationale, le texte adopté par l'Assemblée nationale soit ensuite soumis à l'approbation populaire. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est fait que ce Sénat de la transition a constitué une commission constitutionnelle composée de 12 sénateurs qui a siégé à Kinshasa, mais principalement à Kisangani dans la localité de Sini-Sini.
Avec Bruno Biambo Kekese.
Avec le président, l'ancien président de la Cour suprême de justice, Bruno Biambo Kekese, qui a présidé cela. Avec le concours, évidemment, d'experts nationaux et internationaux. Et cette commission constitutionnelle s'est inspirée également d'une consultation nationale qui avait été organisée par le Sénat. Le Sénat avait envoyé quelques sénateurs pour rencontrer quelques groupes cibles et leur poser quelques questions sur les options fondamentales qu'il fallait lever. Et c'est sur la base de cette consultation et du travail de cette commission constitutionnelle, avec l'appui évidemment d'experts nationaux et internationaux, que le Sénat a adopté un avant-projet de constitution qu'il a envoyé par la suite à l'Assemblée nationale, qu'il a discuté, et c'est le texte de l'Assemblée nationale qui a été soumis au référendum populaire du 19 au 20 décembre 2005. Voilà l'origine de la constitution que nous avons aujourd'hui. Elle a été par la suite promulguée le 18 février 2006 par le président de la République de l'époque.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Okapi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi
On entre maintenant dans le fond même de la Constitution. Quel est son contenu?
Alors, ça c'est encore une très bonne question. Aujourd'hui, le débat qui a eu lieu s'est déclenché malheureusement dans un contexte où nous sommes tous, en tout cas pour beaucoup, ignorants du contenu de la Constitution actuelle. Alors, comme je l'ai dit également la fois passée, une Constitution a deux parties, ce qu'on appelle deux comptes. Il y a une partie qui concerne le statut des citoyens et une autre partie qui concerne le statut des dirigeants, c'est-à-dire les droits et libertés fondamentaux des citoyens d'une part et d'autre part l'organisation et l'exercice du pouvoir d'État. Notre constitution a été conçue autour de ces deux pôles, mais ça ne veut pas dire que la constitution n'a que deux titres. Notre constitution a sept titres, dont le premier est consacré aux dispositions générales qui définissent ce que c'est l'État, qui définissent la souveraineté de l'État, la question de la nationalité. Il y a le titre deuxième qui définit les droits et libertés fondamentaux des citoyens, mais aussi leurs devoirs. Le titre troisième est consacré à l'organisation et à l'exercice du pouvoir. Le titre quatrième est consacré uniquement au Conseil économique et social. Le titre cinquième aux institutions d'appui à la démocratie. Et le titre sixième qui est consacré à la matière de la révision constitutionnelle. Pour terminer enfin par le septième titre qui contient des dispositions transitoires et finales. Voilà la charpente de notre constitution. Alors, qu'est-ce qui est là-dedans fondamentalement? Alors, cette constitution, je peux le dire sans risque d'être contredit, que depuis 1960, c'est la plus généreuse des constitutions que nous avons en matière de droits fondamentaux. Parce que, quantitativement parlant, le nombre de droits qui y sont consacrés dépasse toutes les autres constitutions que nous avons depuis 1960. Et même qualitativement parlant, le contenu de chacun de ces droits, de chacune de ces libertés, est tellement vaste et tellement dense que dans l'interprétation, on n'est plus dans le cadre des constitutions anciennes. Je vais vous donner quelques exemples. Prenons l'article 16 qui reconnaît le droit à la vie. Cet article commence par un énoncé péremptoire en disant que la personne humaine est sacrée. En conséquence de quoi, l'article reconnaît les autres droits comme le droit à la vie, le droit à ne pas subir des tortures, etc., etc. Alors, concernant spécifiquement le droit à la vie, la Constitution dit tout simplement « toute personne a droit à la vie ». Ce qui est différent des formulations anciennes, parce que dans les constitutions anciennes, quand on affirmait le droit à la vie, on ajoutait un deuxième alinéa qui disait que nul ne peut être mis à mort sauf dans les cas prévus par la loi et dans les formes que cette loi prescrit. Ce qui veut dire que le droit à la vie était reconnu, mais la loi pouvait prévoir des cas et des formes dans lesquelles on pouvait porter atteinte à cette vie-là. Ce qui justifiait l'existence notamment de la peine de mort dans le code pénal. Aujourd'hui, la formulation actuelle qui est péremptoire a supprimé cet alinéa, et donc, du coup, la peine de mort a perdu une base constitutionnelle dans notre pays. C'est ce qui pousse certains à dire que cette constitution est vraiment abolitionniste parce que elle ne donne plus un fondement à la peine de mort qui existe dans le code pénal. Du point de vue des abolitionnistes, c'est une avancée énorme. Deuxième exemple, dans la foulée du droit à l'égalité et de la non-discrimination, en commençant par l'article 10, 11, 12, 13 et 14, on a élargi le champ d'application du droit à la non-discrimination jusque dans les statuts de la femme. On a reconnu à la femme un certain nombre de droits que la femme n'avait pas avant, jusqu'au principe de la parité homme-femme, c'est-à-dire de leur équitable représentation dans les institutions nationales, provinciales et locales. Ce qui constitue une avancée majeure que nous n'avons jamais eue auparavant. Un troisième exemple. Si vous commencez à partir des articles 17 jusqu'à 19, il y a ce qu'on appelle les droits à un procès équitable qui est organisé avec des principes qui ont été constitutionnalisés comme le principe de la présomption d'innocence, le principe que chaque citoyen a un droit au juge que la loi lui reconnaît, le principe selon lequel la responsabilité pénale est individuelle, on ne peut plus arrêter quelqu'un du fait de l'infraction commise par une autre personne. Tous ces principes ont été constitutionnalisés. Ils existaient avant dans le code pénal, c'est-à-dire dans une loi, mais aujourd'hui, ils ont une portée énorme, ils ont un rang supérieur parce qu'ils ont été inscrits dans la Constitution. Vous avez aussi une autre innovation C'est l'article 61. L'article 61 donne une liste des droits indérogeables, c'est-à-dire des droits auxquels on ne peut jamais porter atteinte, quelles que soient les circonstances. Même si on est dans le cadre d'un état d'urgence, l'état de guerre, l'état de siège, personne ne peut porter atteinte à ces droits-là. C'est le droit à la vie, c'est le droit à l'intégrité physique de sa personne, c'est le droit à ne pas être condamné pour une dette, etc. La liste qui est à l'article 61-là, c'est une liste tellement dense que elle dépasse même la liste qui figure dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est une avancée terrible que beaucoup de sociétés étatiques n'ont pas encore atteinte. Et pour finir, l'article 220 de notre Constitution interdit la révision de cette Constitution allant dans le sens de la réduction des droits fondamentaux. Ça veut dire tous les droits qui sont dans la Constitution, qu'ils figurent à l'article, au titre 2 ou pas, tous ces droits, on ne peut pas réviser la Constitution pour les réduire. C'est une interdiction, en fait, de légiférer à rebours. Ça veut dire que le niveau de reconnaissance et de protection des droits fondamentaux que nous avons atteint, on ne peut plus le baisser, sous quelque prétexte que ce soit. C'est ce qu'on appelle l'effet cliquet. D'ailleurs, c'est ça une des caractéristiques fondamentales des sociétés démocratiques, c'est qu'on veut reconnaître des droits fondamentaux à des citoyens. Une fois qu'on les a, on a atteint un certain niveau de protection, il ne faut plus reculer. Il ne faut plus réviser la Constitution dans le sens de la réduction de ces droits fondamentaux. C'est pour ça que je dis c'est la Constitution la plus généreuse que nous avons en matière de droits fondamentaux. Alors, l'autre contenu, la deuxième partie, c'est celle qui concerne l'organisation et l'exercice du pouvoir d'État. Le miracle, si je peux appeler ça, que le dialogue de Sun City a pu produire, c'est qu'il a réussi à susciter un consensus au sein de la classe politique congolaise qui pourtant se battait par des armes pour pouvoir s'entendre sur au moins deux questions majeures qui ont toujours divisé la classe politique congolaise depuis 1960. Le premier consensus qui a été trouvé, c'est sur la forme d'État. Vous savez que depuis la table ronde de Bruxelles de 1960, les Congolais ne se sont pas entendus sur la forme de leur État. Il y avait d'une part les fédéralistes et d'autre part les unitaristes. Les uns et les autres voulaient que leur forme d'État puisse prévaloir. C'est comme ça que dans la loi fondamentale de 1960 sur la structure du Congo, il y a eu difficulté de trouver les consensus. À Sun City, le consensus qui a été trouvé, c'est que dans la constitution actuelle, on a instauré ni un État fédéral, ni un État unitaire. Mais c'est un peu une forme intermédiaire entre les deux que nous, les spécialistes, nous qualifions d'État régional. C'est un régionalisme constitutionnel qui prend en compte les principes du fédéralisme et les principes de l'unitarisme et qui structurent l'organisation de l'État autour de ces principes. Et ces principes, ce sont lesquels? Le premier principe, c'est celui de l'autonomie. L'autonomie qui est reconnue aujourd'hui à nos provinces, qu'on n'appelle plus État comme dans les États fédérales, à nos provinces est constitutionnelle. C'est-à-dire les prérogatives des provinces sont reconnues directement dans la Constitution et personne ne peut les modifier si la Constitution lui-même n'a pas modifier son œuvre. Et donc, c'est une garantie fondamentale qui fait que aujourd'hui, les provinces disposent de leurs institutions politiques propres, les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux, dont les animateurs sont élus directement par le peuple lui-même à la base. Donc, nos provinces actuelles ne sont plus de simples circonscriptions administratives qu'on a connues sous la Deuxième République, c'est-à-dire sous un État unitaire décentralisé, dont les autorités étaient nommées par le pouvoir central et qui dépendaient de la tutelle du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, comme on l'appelle à l'époque. Aujourd'hui, les autorités provinciales sont des autorités élues directement par le peuple. Elles ne dépendent pas, du moins dans leur matière exclusive, du pouvoir central. C'est le premier principe qui a été consacré, celui de l'autonomie. Le deuxième principe, c'est celui de la participation, et qui est inspiré justement de la forme unitaire de l'État. Étant donné que ce n'est pas un État fédéral, on a organisé la structure de l'État pour que les provinces participent à l'exercice du pouvoir central, aussi bien le pouvoir législatif que le pouvoir exécutif. Les provinces participent à l'exercice du pouvoir législatif au niveau central par le biais du Sénat, parce que le Sénat est composé des sénateurs qui sont élus par les assemblées provinciales. Et en tant que représentants des provinces, les sénateurs sont là pour faire entendre, pour la défense d'abord des intérêts des provinces dans le cadre de l'État régional que nous avons choisi. La deuxième forme de participation des provinces à l'exercice du pouvoir central, c'est au niveau de la composition du gouvernement central. Il y a un article de la Constitution qui impose que la composition du gouvernement central puisse tenir compte de la représentativité nationale. C'est-à-dire que toutes les provinces soient représentées au sein du gouvernement. C'est une manière de faire participer les provinces à l'exercice du pouvoir exécutif national. Voilà la forme d'État qui a été trouvée et qui fait qu'aujourd'hui, si on entend certaines personnes proposer la révision de tel ou tel article, la suppression de telle ou telle institution, comme par exemple le Sénat, ils ne tiennent pas compte de cette forme d'État, la forme d'État régionale que nous avons. Supprimer le Sénat aujourd'hui ou en réduire les prérogatives, c'est en fait porter atteinte à la forme d'État qui a été instituée dans la Constitution et qui est sanctuarisée à l'article 220 de la Constitution. Ça, c'est le premier consensus qui a été trouvé. Le deuxième consensus, c'est au niveau de la nature du régime politique. Les Congolais ont toujours été divisés également sur la nature du régime politique à instaurer, entre le régime parlementaire et le régime présidentiel. En 1960, c'est le régime parlementaire qui avait été institué, et la première crise politique que nous avons connue entre Kasavubu et Lumumba, c'était à la suite d'une mauvaise interprétation de ce régime parlementaire. C'est comme ça que la Deuxième République a consacré un régime présidentiel et qui est allé jusqu'au présidentialisme, parce que le président Mobutu a eu plus de pouvoir qu'un président de la République ordinaire peut avoir. Alors, face à ces deux pôles, le parlementarisme et le présidentialisme, qui a des inconvénients et des avantages, ceux qui ont négocié cette constitution à Sun City, ou plus exactement ceux qui ont élaboré la constitution pendant la transition, ont instauré un régime intermédiaire qui n'est ni totalement parlementaire, ni totalement présidentiel. Certains qualifient ça de semi-présidentiel ou de semi-parlementaire. C'est-à-dire qu'on appuie des principes, encore une fois, du régime parlementaire et ceux du régime présidentiel, on les a mixés de telle manière que le régime puisse fonctionner en toute collaboration entre les uns. Et ces principes, c'est lesquels? C'est que nous avons un président de la République qui est élu au suffrage universel direct et qui dispose des prérogatives qui lui sont reconnues dans la Constitution. Tout cela vient du régime présidentiel parce que dans un régime parlementaire, le président de la République n'est pas élu au suffrage universel direct. Il n'a pas non plus de prérogatives comme notre président actuel. Il est élu par une assemblée élue, par un parlement, avec un rôle décoratif, comme on dit, pour inaugurer les chrysanthèmes. Mais nous, dans notre constitution, on n'a pas voulu faire de notre président de la République quelqu'un qui inaugure les chrysanthèmes. Il est élu par la population sur base d'un programme déterminé. Voilà pourquoi on lui reconnaît un certain nombre de pouvoirs. Notamment, il participe à la définition du pouvoir avec le gouvernement. C'est lui qui préside le conseil des ministres et qui en fixe l'ordre du jour. C'est lui qui nomme également le premier ministre. Voilà que c'est un président fort qui a des prérogatives. Mais à côté de lui, vous avez des principes du régime parlementaire qui ont été organisés parce que le premier ministre et son gouvernement ne sont pas désignés par la volonté unilatérale du président parce que le président doit puiser la nomination du Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Ça veut dire que le gouvernement est issu de la majorité parlementaire et il est responsable devant cette majorité parlementaire. Et donc, en contrepartie de quoi, lorsqu'il y a crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, on reconnaît au président le pouvoir de dissolution. Donc, le principe de la responsabilité politique du gouvernement devant l'Assemblée est consacré, mais également celui de la possible dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République. Voilà pourquoi, lorsque les gens voient dans cette constitution qu'il y a des germes de conflit, en réalité, ça a été voulu pour qu'il n'y ait victoire ni des uns ni des autres, ni des parlementaristes, ni des présidentialistes.
Quelles sont les différentes constitutions que la RDC a connues dans son histoire et pourquoi?
Alors, nous sommes quand même un pays, je vais dire, assez prolixe en matière constitutionnelle. Même si la classification nous divise, nous les spécialistes en la matière, mais grosso modo, on se met quand même d'accord que nous avons connu les principales constitutions suivantes. En 1960, nous avions deux textes de loi votés par le Parlement belge qui formaient la première constitution de notre État indépendant. Il y avait d'une part la loi fondamentale du 16 juin 1960 sur les libertés publiques, et d'autre part, la loi fondamentale du 19 mai 1960 sur les structures du Congo. Les deux textes formaient notre première constitution qu'on a connue en tant qu'État indépendant. Le deuxième texte constitutionnel que nous avons connu, c'est celui du 1er août 1964 qui a été élaboré à Luluabourg. Voilà pourquoi on l'appelle souvent la constitution de Luluabourg. La troisième constitution qu'on a connue, c'est la constitution du 24 juin 1967, encore appelée la constitution révolutionnaire de la Deuxième République, qui a été élaborée après le coup d'État du 24 novembre 1965. Et donc, on attribue ça aussi au régime du Imper, parce que c'était à l'époque où, même si le bipartisme a été reconnu dans la constitution, par la suite, l'Imper va s'imposer comme la seule institution existante. Et cette constitution a connu plusieurs modifications, dont les principales, c'est en 1971 et en 1974, d'abord pour institutionnaliser l'Imper et ensuite pour radicaliser cette institutionnalisation en confondant l'État avec le parti. Nous sommes devenus les Imper Parti État. Jusque 24 avril 1990, lorsque le président de la République, par son discours historique, a mis fin au système de la Deuxième République, au système monopartisan, et ça nous a conduit à élaborer une constitution de la transition. C'est celle du 5 juillet 1990, on a modifié certains articles de la constitution existante pour instaurer notamment le tripartisme, mais à cause de la contestation qui naissait déjà dans l'opinion, qui demandait l'émilitarisation intégrale, il y a eu ensuite une autre révision qui est intervenue en novembre 1990.
Sans passer par le référendum.
Jamais. Mais j'ajoute que les constitutions de 67 et de 64 ont été adoptées au référendum populaire. Les deux premières constitutions que nous avons qui ont été adoptées au référendum populaire, ce sont les deux-là. Alors, le degré de liberté de la population et de sa connaissance, je ne vais pas en discuter, mais théoriquement parlant, ce sont les deux conditions qui ont été adoptées au référendum populaire dans notre pays. Après le discours du 24 avril 1990, nous avons connu ensuite plusieurs constitutions de la transition, notamment la constitution harmonisée de 1993, notamment la constitution du 1er avril 1994, jusqu'au décret loi constitutionnelle qui nous a été imposé par le régime de la FLED.
Ce qu'on appelait l'acte de la transition.
Voilà. Il y a eu d'abord l'acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition, adopté par la Conférence nationale souveraine, mais qui n'a jamais été promulgué par le président Mobutu, qui a été par la suite reconnu par deux arrêts de la Cour suprême de justice, mais qui n'a pas été, on va dire, exécuté complètement. Après, cet acte est voté par la CNS, le président Mobutu a réuni la classe politique pour maintenant adopter ce qu'on appelait l'acte constitutionnel harmonisé de 1993, qui intégrait aussi bien les désidérata de l'Union sacrée de l'opposition à l'époque et de ce qu'on appelait les forces politiques du conclave. Après cette constitution, il y a eu par la suite, toujours grâce à des négociations, la constitution du 1er avril 1994 qui a vu l'arrivée notamment du Premier ministre de Hong Kong, etc. jusqu'en 1997, comme je l'ai dit, où la FDL a imposé le décret loi constitutionnelle du 27 mai 1997. Mais après la contestation du régime de la FDL, après San City, nous avons connu une constitution de la transition, la constitution du 4 avril 2003, qui organisait la période de transition jusqu'à la constitution actuelle, celle du 18 février 2006. Au total, on a connu à peu près 5 ou 6 principales constitutions avec des modifications, avec des constitutions de type transitoire, etc.
On vient de très loin et on n'est pas fatigué d'avoir des constitutions.
On en propose encore.
On en propose encore. Quel est le mode de changement ou de révision de la constitution?
Très bien. Le mode de révision d'une constitution est généralement prévu par la constitution existante. Il est difficile de parler de changement d'une constitution lorsqu'il n'y a pas un texte qui définit au préalable les règles du jeu. Pour aller à l'essentiel, la constitution actuelle a prévu ces mécanismes de révision. C'est aux articles 218 à 220, le titre 7 de la constitution. Alors, ce qui est prévu, c'est quoi? C'est que, à l'initiative du président de la République, de la moitié des parlementaires, c'est-à-dire des sénateurs ou des députés nationaux, à l'initiative du gouvernement, délibéré en conseil des ministres, ou à l'initiative de 100 000 citoyens se prononçant par une pétition, une révision constitutionnelle peut être initiée. L'initiative est soumise au parlement. Les deux chambres du parlement, séparément, jugent du bien fondé de cette initiative. Une fois que la décision est acquise, il faut maintenant élaborer le texte de la modification de l'article de la Constitution. Si ce texte est élaboré, le principe c'est qu'il faut qu'il soit soumis au référendum populaire. Parce que, au nom du parallélisme des formes et de l'acte contraire, la Constitution y a été adoptée au référendum populaire. Pour modifier cette Constitution, il faut soumettre également au référendum populaire. Ça, c'est la voie principale. Mais la voie exceptionnelle, c'est que l'article 218 prévoit aussi que si le texte n'est pas soumis au référendum populaire, l'Assemblée nationale et le Sénat, cette fois convoqués en congrès, peuvent adopter la révision constitutionnelle qui est proposée. Mais moi, j'ajoute toujours que si on reconnaît ainsi à l'Assemblée nationale et au Sénat un tel pouvoir, ça ne peut être que pour des dispositions, on va dire, mineures qui sont dans la Constitution. Lorsqu'il s'agit, par exemple, des articles qui organisent la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat, des articles qui prévoient qu'il y aura un règlement intérieur de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ça, c'est la cuisine interne. C'est normal que le Congrès puisse modifier ces articles sans passer par les référendums. Mais en revanche, les dispositions majeures, celles qui concernent, par exemple, les droits et libertés fondamentales des citoyens, celles qui concernent la forme de l'État, celles qui concernent la nature du régime politique, moi, j'enseigne toujours que ces dispositions-là, pour les modifier, il faut absolument passer par les référendums populaires. Voilà ce qui est prévu. Donc, le pouvoir constituant dérivé, c'est lui qui est habilité à réviser la Constitution, ce soit le peuple lui-même qui est consulté par référendum, ce soit l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Mais ce n'est qu'un pouvoir de révision. Parce que les articles 219 et 220 prévoient des limitations à ce pouvoir de révision. L'article 219 interdit de réviser la Constitution dans certaines circonstances, notamment pendant l'état de guerre, l'état de siège, l'état d'urgence, notamment pendant l'intérim à la présidence de la République, notamment pendant que l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de siéger. Donc pendant ces périodes-là, on ne peut déclencher les mécanismes de révision de la Constitution. Ça, ce sont les limitations formelles. L'article 220, maintenant, établit des limitations de fond. Ça veut dire que, quelles que soient les circonstances, vous ne pouvez pas réviser certaines matières qui sont dans la Constitution, qui figurent dans les autres articles de la Constitution, par choix du constituant originaire lui-même. Alors, ces matières, c'est quoi? C'est la forme républicaine de l'État. C'est la forme représentative du gouvernement. C'est le principe du suffrage universel. C'est le principe du pluralisme politique et syndical. C'est le nombre et la durée du mandat du président de la République, etc., etc. Le même article 220 interdit également à l'alinéa 2, je venais de le dire, de réviser la Constitution allant dans le sens de la réduction des droits qui sont reconnus.
À l'article 16.
Voilà. Ou de la réduction des prérogatives des provinces. On peut réviser ces articles, mais uniquement dans le sens positif. Alors, si vous voulez, parce qu'on cite souvent ces principes-là, sans les expliciter. Quand on dit, par exemple, la forme républicaine de l'État, ça veut dire qu'il est interdit de réviser la Constitution pour restaurer, par exemple, la dictature que nous avons connue pendant la Deuxième République. Puisque nous nous déclarons une république, c'est-à-dire la chose de tous, il est interdit de réviser la Constitution pour mettre une disposition qui instaurerait, par exemple, une monarchie. Ça, c'est interdit. Alors, quand on dit forme représentative du gouvernement, ça veut dire que toutes les institutions que nous avons, leurs animateurs, ne tiennent leur pouvoir que de la volonté du peuple, en tant que représentant. Alors, toute révision de la Constitution qui irait dans le sens, par exemple, de supprimer l'élection du président de la République, de supprimer l'élection des députés provinciaux, celle des sénateurs, toute révision de la Constitution qui irait dans ce sens violerait en fait ce principe-là de la forme représentative du gouvernement.
Donc, nous pouvons dire que notre Constitution ne pose pas problème, c'est plutôt un problème de culture, donc.
Essentiellement une question de culture.
Tel que vous l'expliquez, si tout le monde appliquait ce qui est écrit, si vous on n'aurait jamais de problème.
Je dis toujours que entrer dans le constitutionnalisme, comprendre une constitution, c'est un peu comme un païen qui s'est converti au christianisme. Vous vous faites baptiser parce que vous avez cru en l'évangile de Jésus-Christ, et une fois que vous recevez l'Esprit Saint, vous devenez une personne nouvelle. Vous agissez dans les cadres du décalogue, dans les cadres de l'évangile qui vous a été enseigné. Et donc, c'est un peu comme ça. Si vous vous convertissez au constitutionnalisme, vous vous convertissez à l'état de droit, vous intégrez l'ensemble des règles qui dirigent la société, en commençant par la Constitution, et vous ne pouvez en sortir sans violer l'état de droit, le principe même de l'état de droit. Et donc, vous ne pouvez agir que dans ce cadre-là. C'est comme ça qu'aujourd'hui, et je me permets de mentionner cela, certains collègues ou certains politiques qui pensent que le Parlement, le Congrès, peut d'abord réviser l'article 220, parce que l'article 220 lui-même n'est pas verrouillé, pour par la suite procéder au déverrouillage des autres articles, c'est ce que j'appelle justement la fraude à la Constitution. Et la fraude à la Constitution consiste à donner l'impression de respecter la lettre de la Constitution, mais à en violer l'esprit. Si on se permet de modifier l'article 220, littéralement parlant, on n'a commis aucune faute, mais dans l'esprit du constituant, puisque vous avez déverrouillé cet article, que voulez-vous faire? Vous voulez maintenant permettre que ce qui a été interdit à l'intérieur de cet article 220 puisse être appliqué. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'il n'y ait plus une forme républicaine de l'État, qu'on rentre dans la dictature, dans la monarchie? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que la forme représentative du gouvernement n'existe plus, mais qu'il y ait des autorités qui proviennent du ciel? Qu'est-ce que vous voulez?
La bataille, elle s'annonce âpre.
Moi, je veux que ce débat s'organise et qu'il soit mené de façon le plus démocratique possible et le plus libre possible. La Constitution elle-même prévoit qu'elle peut être révisée. Ce ne sont pas des temps, je sais, une fois pour toutes, comme l'a dit un autre.
Mais il y a des matières auxquelles on ne peut pas toucher.
Un dernier mot, cher ami Jeff. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que le mécanisme de révision qui est prévu dans la Constitution ne permet pas de quitter cette Constitution au profit d'une autre. Mais cela ne veut pas dire que toutes les portes sont fermées pour autant. Voilà pourquoi je vous ai parlé.
C'est pourquoi vous avez proposé une loi.
Que nous puissions adopter, en vertu de l'article 5 de la Constitution, la loi fixant les conditions d'organisation du référendum. Et dans ce cadre-là, tout en renforçant les mécanismes de protection de la Constitution actuelle, il faut prévoir que de manière exceptionnelle, lorsque l'État se trouve devant des situations difficiles à surmonter, paralysie du fonctionnement des institutions ou menace de paralysie, qu'il y ait une autorité au sein de la République qui s'élève, qui puisse poser la question à la population, laquelle doit s'exprimer par voie de référendum, sur la possibilité ou non de modifier certains articles qui sont verrouillés dans la Constitution. En le faisant, on le fait en vertu de la Constitution elle-même, parce qu'elle prévoit l'article 5 que le peuple peut s'exprimer par voie de référendum. Mais pour ça, il faut au préalable que la loi sur le référendum soit adoptée par le Parlement.
Voilà, c'est par ces mots du professeur Paul Gaspard Ngondankoy qui évoquait avec nous les différentes facettes de la constitution congolaise, son origine, son histoire, son élaboration, son mode de changement ou de révision. Que la boucle est bouclée. Merci de votre écoute et de rester toujours branché sur la fréquence de la paix.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.